Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 1939-1945, l'épopée d'une armée oubliée, l'armée française d'Afrique.
Toute l'Afrique occidentale française est avec la France dans ses efforts pour maintenir la paix du monde. La France, notre patrie, trouvera ses populations africaines prêtes à toutes les éventualités jusqu'au sacrifice suprême.
D'histoire. Ils étaient chrétiens, musulmans, juifs ou agnostiques, et ils étaient venus d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou d'Afrique noire pour participer à la guerre contre l'Allemagne hitlérienne et l'Italie fasciste. Plus de 60 000 d'entre eux sont morts en Tunisie, en Italie, sur les plages de Provence, dans la neige d'Alsace et jusqu'au cœur du Troisième Reich, en se battant pour un pays qui les a bien vite oubliés. Qui se souvient aujourd'hui de ces tirailleurs sénégalais, de ces spahis algériens, de ces tabors et goumiers marocains et des pieds noirs qui, dans l'armée d'Afrique, ont été pendant 5 ans de tous les combats pour la libération de la France.
Devant Beaufort, à travers les routes noyées de boue, dans la brume froide de l'automne, l'armée française soutient le poids de la guerre contre un ennemi qui s'approche désespérément. Ici, ce sont des goumiers qui tiennent les lignes, soldats habitués au soleil et qui ont pourchassé l'Allemand depuis l'Afrique jusqu'en Lorraine. La lutte est dure, mais les troupes françaises y ont fait leur place et la tiendront jusqu'au bout. Ce sont des Français qui délivrent ici la terre française. Chaque village reconquis, comme celui-ci, vient confirmer l'espoir, la certitude que le drapeau français flottera enfin sur le dernier pouce de notre territoire.
Dominique Lormier, bonjour.
Bonjour.
C'était en 1944, la libération de Belfort par une armée, l'armée d'Afrique, à laquelle vous venez de consacrer un livre publié chez Calman Levy, une armée dont on a oublié un peu l'histoire alors qu'elle a joué, vous le rappelez, un rôle considérable pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, elle a d'ailleurs joué un rôle également important durant la Première Guerre mondiale, parce que c'est une armée qui a été créée durant la deuxième moitié du 19e siècle et durant la Belle Époque, et qui s'est ensuite signalée par des faits de grande bravoure durant la Première Guerre mondiale, avec une mobilisation assez importante, puisque la France a quand même envoyé sur le front français près de entre 400 000 et 600 000 soldats nord-africains ou noirs d'Afrique durant la Première Guerre mondiale, et ils ont subi près de 100 000 hommes tués au combat, donc une participation active plus importante que celle de la Grande-Bretagne, qui était pourtant également...
Mais pendant la Deuxième aussi, c'est la question que je vous posais, parce que pendant la Deuxième Guerre, le débarquement en Provence a été très important, oui. Et là-dedans, elle a joué un rôle essentiel, elle a joué un rôle essentiel aussi, nous avons le voir dans la campagne d'Italie, oui. Et notamment à Monte Cassino, puis dans la prise de Rome. Enfin bref, cette armée, on en parle peu, et il est bienvenu que votre livre, justement, nous rappelle son histoire. Une histoire, d'ailleurs, puisque c'est une armée coloniale, c'est l'armée d'Afrique, une histoire qui commence en même temps, d'ailleurs, que l'Empire colonial. Elle est née au 19e siècle, cette armée d'Afrique.
Voilà, alors c'est une armée qui a été constituée petit à petit du fait des apports qui étaient menés par la France dans un engagement militaire dans les guerres coloniales, et ça a démarré bien entendu avec l'Algérie en 1830, et puis ça s'est étendu ensuite au Maroc, à la Tunisie, puis également à l'Afrique noire, et petit à petit, à travers ces différentes contrées, on a vu naître des corps d'élite. Il faut savoir que les soldats nord-africains et les Sénégalais et les autres avaient une réputation de solides guerriers. Il y avait une vieille tradition militaire, tribale, et que les Occidentaux ont voulu utiliser au sein, du moins la France, au sein de son armée, pour combler quelquefois aussi un déficit des naissances.
En créant les tirailleurs sénégalais.
Alors il y a eu les tirailleurs sénégalais, les Algériens, les Marocains, les spahis, les goumiers, enfin toute une variété de troupes qui étaient des troupes pratiquement professionnelles et des corps d'élite.
Et des troupes qui, dès 1939, partent en métropole, donc 80 000 hommes qui participent à la campagne de France. France, comme ce marabout de Dakar annonçant en 1939 au président de la République française Albert Lebrun que le Sénégal, comme d'autres colonies, était prêt à se battre pour la France au moment où commençait la Deuxième Guerre mondiale.
Monsieur le Président, toute l'Afrique occidentale française est avec la France dans ses efforts pour maintenir la paix du monde. Plus grande sera sa force, mieux nous serons assurés d'une vie meilleure. En toutes circonstances, la France, notre patrie, trouvera ses populations africaines prêtes à toutes les éventualités jusqu'au sacrifice suprême.
Allez confiant vers votre devoir, soldats de France, soldats d'un empire de 100 millions d'habitants. De toute l'Afrique noire en particulier, et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont ralliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie, dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade.
En 39 comme en 14, Dominique Lormier ont fait effectivement appel et elle va jouer un rôle essentiel dans cette campagne de France, même si elle était désastreuse. Les troupes de cette armée d'Afrique ont joué un rôle important.
Je peux vous d'abord vous citer deux chiffres. La France a mobilisé, elle disposait au mois de mai 1940 de 50 divisions d'infanterie, dont 20 étaient des divisions issues de l'Afrique du Nord ou des troupes coloniales. Donc ça vous donne une importance des effectifs qui ont été engagés, où ils ont été d'ailleurs souvent engagés dans des missions de sacrifice, c'est-à-dire ils étaient chargés de couvrir la retraite des troupes métropolitaines, où ils ont subi des pertes extrêmement importantes et également ils ont souvent été méprisés en tant que prisonniers par les soldats nazis.
Ah oui, pour la propagande allemande, la présence de troupes noires, notamment dans l'armée française, c'était le signe de la décadence de la France. Nous avions fait une émission sur ce qu'on appelait la honte noire et c'est vrai qu'ils ont été victimes non seulement de la propagande allemande, Dominique Lormier, mais aussi ils ont été victimes de crimes de guerre.
Ah oui, totalement. Ben, notamment sur la Somme, la division de Rommel a massacré des tirailleurs sénégalais. Il y a eu le fameux capitaine Enchoéré qui était vraiment un amoureux de la France, qui avait fait d'ailleurs l'école militaire et qui n'a pas été reconnu en tant que tel, en tant que prisonnier français. Il a été sauvagement abattu par les soldats de Rommel. Rommel qu'on fait pourtant passer pour un grand humaniste, entre guillemets. Il faut savoir quand même que la division de Rommel était constituée en grande partie de membres des jeunesses hitlériennes. Et véritablement, les Allemands ont instrumentalisé la présence de ces unités pour faire croire qu'il y avait une dégénérescence de la France qui était obligée d'engager donc des unités venues d'Afrique pour défendre la patrie.
Alors maltraités aussi dans les camps de prisonniers où on les sépare des unités de Français de métropole, enfin bref.
Alors c'est assez curieux, il y avait une sorte de hiérarchie, c'est-à-dire les Allemands étaient beaucoup plus sévères vis-à-vis des Noirs qui considéraient véritablement comme des sous-hommes, que vis-à-vis des Nord-Africains où ils avaient une plus grande estime, certainement d'ailleurs avec des arrière-pensées puisque les Allemands essayaient d'instrumentaliser une certaine forme d'anticolonialisme pour essayer de chasser les Français d'Afrique du Nord et pour prendre leur place.
Alors après l'armistice de 1940, l'armée d'Afrique se reconstitue justement en territoire africain et notamment en Afrique du Nord en restant pour l'essentiel sous le contrôle de Vichy.
Alors c'est dû aux circonstances, c'est-à-dire que vous avez des territoires africains qui se rallient à la France libre. Ils ne sont malheureusement pas la majorité, donc la majorité restante étant celle qui restait fidèle à Vichy et qui va y rester jusqu'au mois de novembre 1942.
Alors commandé par le général futur maréchal Weygand, par le général Juin, cette armée d'ailleurs dans l'esprit de Weygand qui était malgré tout très pétainiste, ça devait être l'instrument de la reprise de la guerre. Il n'était pas gaulliste, hein, Weygand, mais l'instrument de la reprise. Il fallait à préparer à pouvoir reprendre la guerre. D'ailleurs, il dissimule des armes, des munitions à cet effet.
Alors Weygand avait une vision assez étriquée et assez contestable, c'est-à-dire il avait appliqué en Afrique du Nord la législation antisémite tout en œuvrant pour reforger une armée qui était censée devoir lutter contre l'Allemagne, parce qu'il était non seulement avec un certain penchant d'antisémitisme puisqu'il a approuvé la législation venant du régime de Vichy, mais il était également profondément germanophobe. Il était, je dirais, un peu dans la tradition de ce qu'était l'Action française, qui était assez germanophobe et en même temps également approuvant les lois qui avaient mis à bas la République.
Enfin, on se méfie tellement de son intention de refaire, de reconstituer, parfois même clandestinement, en dissimulant des troupes, même des effectifs, l'armée française, qu'il est chassé à la demande, je crois, des Allemands.
Les Allemands, voilà. Il va être ensuite emprisonné en Allemagne.
Remplacé par le général et futur maréchal Juin.
Voilà. Hein. Et le Juin, qui s'était déjà distingué bombardée en 40 également dans la trouée de Gambloux au sein d'une unité marocaine. Et donc ils vont reforger cette armée et lui donner véritablement une âme qui va être le fer de lance de l'armée française durant la phase de la libération.
Alors cette armée d'Afrique, elle reste pétainiste dans les colonies qui sont restées fidèles à Vichy et qui le resteront jusqu'en 42. En revanche, vous évoquez aussi, c'est pas à proprement parler l'armée d'Afrique, mais elle va rejoindre cette armée d'Afrique, toutes les troupes des forces françaises libres du général de Gaulle qui, elles, sont mobilisées dans les territoires d'Afrique,
une des composantes de l'armée d'Afrique, mais ralliée au général de Gaulle. Et donc, il va être engagé là dans des actions mémorables, comme par exemple la bataille de Bir Hakeim, où la brigade de Français libres, qui est composée à 50% de Nord-Africains et de Noirs d'Afrique centrale, stoppe l'offensive de Rommel en direction de l'Égypte durant plus de 3 semaines, ce qui permettra ensuite aux Anglais de se rétablir à El Alamein, comme ça a été reconnu aussi bien par Churchill que par Rommel lui-même.
On retrouve cette armée aussi, cette armée de forces françaises libres du général de Gaulle en Afrique, en Érythrée.
Contre les Italiens, où il livre des combats un peu dans le style du Moyen-Âge, où ce sont vraiment des combats un peu d'un autre temps, mais extrêmement durs aussi.
Alors une armée donc qui est, elle, sous l'autorité du général de Gaulle. De Gaulle qui se réjouit bien sûr des perspectives qu'offre le 8 novembre 1942 le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord.
Monsieur Young, l'Amérique en guerre vous parle. Écoutez bien, voici une nouvelle d'une extrême importance. Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique du Nord.
Les alliés de la France ont entrepris d'associer l'Afrique du Nord française à la guerre de libération. Il s'agit de faire en sorte que notre Algérie, notre Maroc, notre Tunisie constitue la base de départ pour la libération de la France. Allons, voici le grand moment, voici l'heure du bon sens et du courage. Partout les militants et les pays français de l'Afrique du Nord, qui par nous, nous rentrons dans l'île, d'un bout à l'autre de la Méditerranée, voilà la guerre gagnée, grâce à la France.
Et c'était le général de Gaulle saluant le débarquement allié en Afrique du Nord, alors qu'il n'en a pas été mis au courant. C'est pas sur lui, c'est pas sur de Gaulle que comptent les Américains et surtout, enfin les Anglais et surtout les Américains pour prendre la tête de cette armée qui se trouve en Afrique.
Bah parce que les Américains visent à faire de l'Afrique du Nord française une sorte de protectorat américain, c'est-à-dire où il y aurait effectivement des dirigeants, d'ex-dirigeants de Vichy mis en place, et ça serait une manière de pouvoir mieux les contrôler et d'avoir une meilleure mainmise donc sur l'Afrique du Nord, alors que le général de Gaulle, lui, incarne l'indépendance nationale et la lutte aux côtés, certes des alliés, mais également en voulant réintégrer la France en tant que grande puissance dominante.
Et puis ils le savent, cette armée d'Afrique, en tout cas dans les territoires qui étaient restés sous contrôle de Vichy jusqu'en 42, elle est plutôt pétainiste. Et donc de Gaulle n'aurait peut-être pas réussi tout de suite, en tout cas, à en prendre le commandement. Cela dit, tout de suite, on va assister à une intégration dans cette armée d'Afrique des forces gaullistes. Cela dit, ça se passe pas très bien, vous le rappelez, Dominique Lormier, parce que les gaullistes accusent l'armée d'Afrique de Végan, puis de Juin, finalement, d'être une armée de planqués. L'armée d'Afrique l'armée d'Afrique les accuse surtout d'être des mercenaires. Ça se fait pas très bien, et pourtant, ça finit par se faire.
Ben, ça va se faire par la force des choses, c'est-à-dire du fait des opérations militaires. La campagne de Tunisie se fait quand même d'une manière assez séparée, c'est-à-dire vous avez d'un côté les forces du général Giraud qui vont combattre donc les Allemands à un certain endroit du front, alors que les forces de Leclerc de la France libre combattent aux côtés de Montgomery à un autre endroit. Donc la fusion ne se fait pas tout de suite. La campagne d'Italie. Oui.
Parce que la Tunisie, il faut le rappeler, les Alliés n'y avaient pas débarqué, donc il fallait la conquérir.
Absolument.
Bataille donc contre les Italiens, contre les Allemands,
extrêmement
qui en sont chassés. Il va y avoir aussi un épisode très étonnant, c'est le premier département français de métropole libérée, c'est la participation de cette armée d'Afrique à la conquête de la Corse.
Voilà, alors ça c'est une opération strictement française, parce qu'elle a été menée par la marine française. L'appui aérien vient exclusivement, ou du moins que presque pratiquement exclusivement commandement de l'aviation française, et les troupes qui sont engagées sont uniquement des troupes françaises et en grande partie des troupes issues de l'armée d'Afrique, c'est-à-dire des tirailleurs marocains, des goumiers, qui sont des troupes tout à fait opératives pour manœuvrer en montagne.
Et des troupes que l'on retrouve dans une campagne où l'armée d'Afrique alors a joué un rôle énorme, c'est la campagne d'Italie.
Ah ben alors là, on peut dire qu'elle a joué un rôle essentiel. Le général, le haut commandement allié a reconnu que la percée du front allemand sur le front italien a été possible grâce à l'apport déterminant des troupes du général Juin. Et le maréchal Kesselring, qui commandait le théâtre en Méditerranée, maréchal allemand, a dit textuellement que l'endroit où il a craint pour la solidité de son front était l'endroit où se trouvaient les troupes franco-marocaines de Juin.
Il y a mieux que ça, d'ailleurs, vous citez le général Clark, qui commandait en chef en Italie, le général américain, qui, le jour de l'entrée des troupes alliées dans Rome, le 4 juin 1944...
Voilà, il dit à Juin, sans vous, nous ne serions pas là.
Et il fait monter Juin dans sa Jeep, ce qui montre bien l'importance qu'il accorde donc à cette armée d'Afrique, à sa participation à la campagne d'Italie, une armée d'Afrique que l'on retrouvera quelques semaines plus tard. Juin est remplacé par le général Delattre de Tassigny, donc, qui, avec cette armée devenue première armée française, débarque en Provence le 15 août 1944 devant le micro d'un célèbre reporter de la France Libre, Jacques Duchesne, dont le reportage en direct n'est pas de très bonne qualité. Tendez bien l'oreille.
Les troupes françaises ont été les premières à débarquer dans le midi de la France. L'assaut commença à minuit, lorsque les troupes françaises débarquaient dans les villes, s'emparèrent des batteries allemandes, flanquant les places. Tandis que nous avançons, les hommes libérés que nous laissons derrière nous sont bouillants d'une vie nouvelle. Pour les habitants, le contraste entre aujourd'hui et il y a deux jours est stupéfiant. Avant de pouvoir se rendre compte de ce qui se passait, les Français ont vu arriver les Alliés, débarquant par milliers. Alors, l'excitation qui pendant 4 ans avait dû se contenir a éclaté.
Nous étions au fond de l'Afrique, en bénissant nos trois couleurs, et sous un soleil magnifique, retentissait ce chant vainqueur, en criant, en chantant, en amour. Et nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds,
oui, à ses pieds,
battez tambour,
battez tambour,
à nos amours,
à nos amours,
pour le pays, pour la patrie, mourir de loin,
c'est nous les Africains.
C'est nous les Africains, le chant de cette armée d'Afrique, dont vous avez fait vous-même d'ailleurs le titre de votre livre, Dominique Lormier, c'est nous les Africains, hein, cette armée d'Afrique qui débarquait donc en Provence, là aussi très grand moment de son histoire, parce que là elle a joué un rôle énorme. Il n'y avait pas de troupes françaises ou très peu de troupes françaises.
Alors, il y en avait très peu
en Normandie.
Il y en avait très peu en Normandie,
mais
puisqu'il
là,
y a eu
en Provence,
essentiellement un commando de Français libres du commandant Kieffer, alors qu'en Provence, là on a les trois quarts des unités qui sont engagées, sont des unités françaises. Il y a eu là, également l'apport de la marine qui est assez considérable, une quarantaine de grands bâtiments, dont un cuirassé, et surtout donc ces unités qui vont débarquer et qui vont raccourcir considérablement le délai de la campagne qui avait été prévu de plus de 15 jours, puisqu'ils vont enlever de haute main le port de Toulon et celui de Marseille après des combats extrêmement durs.
Et puis alors remonter le Rhône à vive allure.
Voilà, beaucoup plus vite que prévu également. Ça va jouer un rôle d'accélérateur sur le front de Normandie et ça va entraîner une débandade des unités allemandes.
Alors avec des éléments supplémentaires, parce qu'à toutes ces troupes venues d'Afrique, que ce soit des pieds noirs qui ont joué un rôle énorme, que ces tirailleurs sénégalais ou algériens, ces tabors et goumiers marocains.
Voilà, il y a la fusion qui se fait avec la résistance intérieure, avec l'intégration des forces françaises de l'intérieur. Sur cette armée à peu près de 500 000 hommes, il va y avoir un apport à peu près de 140 000 FFI venant aussi bien des francs-tireurs partisans que de l'armée secrète ou que de l'armée de l'organisation de résistance de l'armée.
Et alors, cette armée remonte le Rhône, fait sa jonction avec la 2e division blindée
du général Leclerc qui avait débarqué, elle, en Normandie au mois d'août. Et donc, il y a la jonction entre les forces gaullistes et les forces donc commandées par le général Delattre de Tassigny, de l'armée d'Afrique. et qui vont mener une campagne extrêmement dure en Alsace et dans les Vosges, avec des climats rappelant ceux du front russe, notamment avec par endroits moins 40 durant l'hiver.
Dans les Vosges et en Alsace et en Allemagne. Car on oublie toujours, ça c'est quand même extraordinaire d'y penser, que les premiers Français à franchir le Rhin le 31 mars 1945, ce sont des tirailleurs algériens.
Absolument. Algériens, Tunisiens et également Marocains, ouais, qui vont être les premiers et qui vont mener une campagne absolument digne des chevauchés de l'Empire de Napoléon Ier, c'est-à-dire une campagne menée tambour battante avec en faisant une floraison importante de prisonniers allemands, près de 300 000 prisonniers allemands entre le débarquement de Provence et la fin de la guerre en Allemagne, ce qui est tout à fait considérable, et également un nombre considérable de tués du côté allemand.
Et qui vont occuper ensuite, par la suite, cette première armée française.
Un quart du territoire allemand de l'Allemagne de l'Ouest.
Alors qu'entre-temps, eh bien, les premiers éléments de cette armée d'Afrique ont commencé à rentrer chez eux dès 1944.
À Marseille, le général Ingold visite les combattants sénégalais qui vont regagner par avion leur terre natale. Un viatique sous forme de colis individuel est offert par la générale à chacun des rapatriés. La France n'oublie pas la part prépondérante qu'ont pris ses soldats d'élite aux campagnes décisives. En quelques heures, le Dakota va ramener au pays ces hommes dont la plupart n'ont pas cessé de combattre pendant 5 ans. On les a vus partout où le communiqué enregistrait des victoires. On les a vus aussi stoïques sous le froid que sous le feu. Ils ont bien mérité de revoir le soleil de Dakar.
Et c'était en octobre 1944, le retour de plusieurs centaines de tirailleurs sénégalais en Afrique, où l'accueil n'est pas aussi chaleureux que le laisse entendre cette archive, Dominique Lormier.
Bah, d'abord, ils sont les héros de l'armée d'Afrique, et puis ils vont redevenir petit à petit, du fait qu'on se réinstalle dans le système colonial de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire ils redeviennent soit des nègres ou des bougnoules, ouais, hein, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone, c'est-à-dire avec le statut d'indigène, où ils vont être traités d'ailleurs d'une manière tout à fait honteuse par le gouvernement.
Oui, parce que le gouvernement, par exemple, ne paye pas leurs soldes ou leurs demandes d'attente. Il y a un soulèvement qui se
produit à Tiaroy, notamment au Sénégal, où il y a un certain nombre de Sénégalais qui vont être massacrés parce qu'ils demandaient leur légitime, je dirais, compensation financière suite aux souffrances qu'ils avaient endurées en Europe.
Alors là, on est en 44 et en 45, quand à leur tour les Algériens ou les Nord-Africains rentrent dans leur pays, là, il y a aussi un drame qui se produit le jour même d'ailleurs de la fin des hostilités en Europe, le 8 mai 1945, un massacre totalement oublié, occulté sans doute par la victoire,
qui était à Sétif, dans la région à Sétif, où il y a eu à peu près grosso modo entre 30 000 et 40 000 victimes, d'après les archives américaines, d'après les archives françaises 15 000, je crois que entre les deux on est assez proche de la réalité, et là où véritablement imaginez un peu ces tirailleurs africains qui ont quitté la France et qui arrivent en Afrique du Nord et qui découvrent des villages rasés avec leurs familles, leurs parents qui ont été tués. Ça a été certainement à l'origine du drame qu'on a connu avec l'Algérie par la suite.
9 ans plus tard, mais c'est vraiment les racines des guerriers. Au fond, vous le disiez, ils redeviennent, si je puis dire, des bougnoules et en plus oubliés. Il n'y a pas si longtemps que ça, et ça se produit régulièrement. Je sais par exemple que en Alsace ou dans les Vosges, il y a des cimetières militaires de tombes musulmanes de ces soldats de l'armée d'Afrique qui ont été profanés. Oui. C'est hallucinant quand même.
Oui, qui ont été profanés par des groupuscules néo-nazis, comme il y en a malheureusement. Heureusement, de nouveau encore aujourd'hui, mais il faut également rappeler deux chiffres importants. Il y a eu 60 000 tués au sein de l'armée d'Afrique, mais ils peuvent revendiquer la mise hors de combat de 600 000 soldats de l'Axe, italiens ou allemands, tués ou faits prisonniers, ce qui est considérable, ce qui représente à peu près l'équivalent des pertes allemandes durant la bataille de Stalingrad.
Comment expliquer, Dominique Lormier, l'oubli dans lequel est tombée cette armée d'Afrique, malgré son importance, malgré ses 60 000 tués?
Est-ce que les Français ont de la mémoire? C'est la question qu'on peut être amené à se poser. C'est-à-dire, ils ont une mémoire qui a tendance un peu à flancher. Ils vivent surtout dans l'instant présent et ils ont surtout tendance à vouloir revendiquer un certain nombre de choses dans l'instant présent. Et ils oublient souvent les faits d'armes ou les faits historiques importants de leur histoire. C'est pour ça que ce livre a une certaine utilité à ce niveau-là, de rappeler le sacrifice de ce qu'a été ces Africains, dont beaucoup vivent aujourd'hui en France, hein. Du moins pas que la France a été été libéré quand même par une armée black-blanc-beurre, hein, un peu comme l'équipe de France de football de 98 qui avait remporté la Coupe de France. Donc, si ça peut lutter, je dirais, contre le racisme et permettre une meilleure fraternité entre les différentes populations vivant en France, je dirais que ce livre aura trouvé son objectif.
Merci Dominique Lormier. Je rappelle le titre de votre livre, justement, C'est nous les Africains, l'épopée de l'armée française d'Afrique 1940-1945. Un livre qui vient de paraître chez Calman Levy. Vous êtes également l'auteur, toujours chez Calman Levy, d'un autre livre, Comme des lions, mai-juin 1940, le sacrifice héroïque de l'armée française. Vous avez pu entendre un extrait d'Archives de guerre 1940-45, ce que les Français ont pu voir dans les salles de cinéma, un double DVD passionnant présenté par Marc Ferro et coédité par Lina et Nouveau Monde Édition. Ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Béziquian, Olivier Riotor, documentation Archivina et ECPA, Claire Destacan, Claire Tesser, Amélie Briand-Lejeune et Sandra Escamez, une réalisation de Anne Comilac.